Et c'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille ce matin au micro d'Europe 1 Frédéric Mitterrand. Frédéric Mitterrand, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi avoir voulu faire ce livre qui raconte le duel fratricide, finalement, entre Napoléon III et Victor Hugo? Ces deux hommes, en fait, au départ, ils avaient plein d'accroches, de
points d'accroche. Ils avaient envie de se séduire l'un l'autre. Napoléon III, lorsqu'il était encore que le prince président, parce qu'il admirait sincèrement Victor Hugo. D'ailleurs, lorsqu'il était en prison, au fort de Ham, il a écrit beaucoup, il envoyait ses livres à Victor Hugo avec des dédicaces très très flatteuses.
Après ces deux tentatives de putsch, quand même.
Après ces deux tentatives de putsch, il avait une vie incroyablement aventureuse.
Mais
disons que l'un est le héros du romantisme, c'est Victor Hugo, et l'autre est le héros romanesque, c'est le futur Napoléon III, qui traîne dans toute l'Europe à essayer de faire des coups d'État contre Louis-Philippe, puis qui finalement berne la classe politique et arrive à se faire élire président de la République.
Et alors peut-être que Victor Hugo aussi a été fasciné par le fait que tout de même, Napoléon, celui qui va devenir Napoléon III, a écrit un truc qui s'appelle « De l'extinction du paupérisme ».
Il avait l'air préoccupé par ça. Il y a deux raisons. La première, c'est que Victor Hugo était quand même fasciné par le pouvoir. Et pendant cette période-là, il a écrit beaucoup moins. Et il a eu le sentiment, bien après, d'une certaine manière, de s'être perdu. Mais en même temps, il était fasciné par le pouvoir. Et il aurait certainement aimé être le conseiller intime du prince-président.
Oui.
Ils étaient l'un et l'autre désireux de se séduire. Mais en même temps, le futur Napoléon III comprenait que... Je dis toujours le futur Napoléon III, parce qu'à cette époque-là, il est président de la République.
Oui.
Il a été président de la République pendant près de 4 ans, ce que tout le monde a oublié.
Il a fait son putsch, en fait, juste à la fin de son mandat,
parce qu'il ne pouvait pas être réélu.
La Constitution était comme ça.
Il lui interdisait.
Et quel était le moteur de Louis-Napoléon, futur Napoléon III? Moi, j'ai l'impression...
Louis-Napoléon, c'était le pouvoir. Il voulait égaler son oncle.
Voilà, il voulait faire comme son oncle, Napoléon Ier.
Sa mère, la fameuse reine Hortense, qui était une femme d'ailleurs absolument merveilleuse, de sympathie et d'intelligence, lui avait expliqué depuis le début, tu reprendras le flambeau de ton oncle.
Et tu referas le grand empire français.
Donc il avait été élevé.
Ça s'est terminé à Sedan.
Il avait été élevé dans tout cela. Surtout, il faut essayer de comprendre l'esprit de l'époque.
Ouais.
Il y avait le souvenir de Napoléon qui était quand même très 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 fort. Et qui était notamment très fort dans les campagnes. Ce qui fait que quand il y a eu le suffrage universel et que Louis-Napoléon est arrivé pour se présenter, il a été élu avec une majorité écrasante. Parce que dans les campagnes, on pensait que c'était Napoléon qui allait revenir. On savait qu'il était mort, mais on pensait que ça serait quand même pareil.
Oui.
Mais il y a une chose qui est importante aussi, c'est que l'un comme l'autre avait un amour profond de la France et de son histoire et de ses possibilités. Louis-Napoléon était très au fait de ce qu'on pouvait faire avec la France. Il a d'ailleurs regardé les villes dans lesquelles nous vivons, regardé les forêts qui ont été plantées par lui en Sologne ou dans les Landes, regardé les chemins de fer. C'est lui le droit de grève, l'autorisation de création des syndicats. C'est lui encore. Donc il y avait un amour de la France et de la société française qui était très très grand. Et il y avait la même chose chez Victor Hugo. Donc ça les rapprochait.
Ouais.
Mais sur les méthodes, ils n'étaient pas d'accord.
C'est aussi un peu une entreprise de réhabilitation de cet homme,
non ? Je ne vais pas réhabiliter un dirigeant qui est arrivé au pouvoir par une sorte de crime, quand même un coup d'État, et dont le règne s'est terminé par un désastre, c'est-à-dire la guerre avec la Prusse et Sedan. Donc je ne le réhabilite pas, mais je pense qu'il est très important aussi de voir qu'il n'était pas sans qualité et qu'il n'était pas le falot méprisable que Victor Hugo couvrait d'opprobre.
Oui.
Parce que Victor Hugo, il y allait carrément.
Ah bah au début, pas du tout, et à la fin, terriblement.
Terriblement,
et
oui.
C'est pour ça qu'il a dû s'exiler, d'ailleurs.
Il était vexé aussi. Oui, il était vexé, parce qu'il aurait voulu que Louis-Napoléon le traite avec plus d'égards, et finalement...
Et le fasse ministre, pourquoi pas?
Alors, il y a toujours eu cette polémique de savoir si Victor Hugo a espéré être ministre. Alors, les gens qui n'aiment pas Victor Hugo disent qu'il a espéré être ministre. Lui, il a toujours nié. En fait, ça reste quand même assez obscur. Et en fait, c'est très très bizarre parce que, tandis que Victor Hugo accablait dans ses écrits Louis-Napoléon, il continuait à lui reconnaître certaines qualités. Il disait à table à Guernesey, vous savez, il écrit quand même très bien. Il n'est pas minable comme je l'écris sans cesse dans mes récits.
C'est pas un abruti, c'est un grand manipulateur,
oui, oui.
C'est un bon louvoyeur politique.
Oui, oui.
La preuve, il est quand même resté en place un moment.
Et Napoléon III, devenu empereur, a été toujours d'une très grande, j'allais pas dire gentillesse, mais il n'a jamais embêté la famille de Victor Hugo quand ils passaient leur temps à rentrer, à sortir de France pour aller retrouver l'exilé de Guernesey. Et même en 1867, quand il y a eu la grande exposition internationale qui était en quelque sorte le zénith de l'Empire, il a accepté, même conseillé, qu'on confie la rédaction du catalogue à Victor Hugo, qui lui était à Guernesey et qui écrivait sur le fait que Paris était devenu magnifique, etc., grâce à Napoléon. C'était quand même des choses incroyables.
C'est étonnant, oui. Ça.
Alors donc, l'idée du livre, en fait, c'est l'animosité en politique. Moi, j'étais très frappé, alors là, il y a une histoire aussi de neveu avec son oncle, j'ai été très frappé de voir que François Mitterrand, que j'admirais profondément et que j'aimais, a toujours gardé vis-à-vis du général de Gaulle la même animosité. Et ça m'a frappé. Je me suis dit, mais devenu président de la République, il aurait pu ne pas avoir cette animosité-là. Et il l'a gardé quand même. J'ai voulu creuser un peu plus et j'ai bien relu tous les écrits que François Mitterrand a consacrés à De Gaulle. Et je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose de Victor Hugo. Parce qu'il reconnaissait aussi d'immenses vertus au général De Gaulle. Mais l'animosité était plus forte. Et cette animosité, elle datait finalement de leur première rencontre à Londres en 1944.
Encore une question à propos de ce livre, donc le duel Frédéric Mitterrand. Pourquoi est-ce que les petits écoliers français savent tout de Napoléon Ier jusqu'à Waterloo et savent tout de la déclaration de guerre en 1914 et entre deux, ils savent rien? Pourquoi il y a un trou noir là?
Alors il y a un trou noir.
C'est passionnant quand on
le lit. En grande partie parce que la République s'est construite sur le refus de toutes les restaurations qui ont eu lieu pendant le 19e siècle. L'idée de la monarchie était tellement puissamment enracinée en France que après Napoléon, on a essayé plusieurs tentatives. Il y a eu Louis XVIII, et puis après, il y a eu Charles X. Bon, Charles X, ça s'est mal terminé, pour lui en tout cas. Après, il y a eu Louis-Philippe, ça s'est mal terminé aussi. Après, il y a eu Napoléon III. Je veux dire, il y avait chaque fois une espèce de réflexe monarchiste, en quelque sorte. Ce trou noir du XIXe siècle est sur la malédiction à l'encontre de Napoléon III, qui a failli réussir. Parce que ce qu'on a oublié, c'est que Napoléon III, 3 mois avant Sedan et la catastrophe, a fait un plébiscite, c'était le nom qu'il donnait au référendum, où il a eu une majorité écrasante. Et en plus, il avait fait évoluer son régime, il risquait de réussir, puisque c'était devenu un régime parlementaire à la fin. Au début, ça a été un dictateur. Mmh. Et puis progressivement, il a évolué, ça correspondait en plus à ce qu'il pensait. Et finalement, à la fin, s'il n'y avait pas eu cette guerre désastreuse de 1870, qu'il a d'ailleurs essayé d'empêcher, mais il était tellement malade qu'il ne pouvait plus, il n'avait plus aucune volonté, il serait resté.
Frédéric Mitterrand, ça c'est votre actualité, donc Napoléon III et Victor Hugo, le duel paru chez XO Éditions. Dans l'actualité de tout le monde, il y a l'affaire Polanski, entre
guillemets.
Pour moi,
il y a l'affaire Dreyfus.
Alors, il y a aussi l'affaire Dreyfus.
Pour moi, il y a l'affaire
Est-ce
Dreyfus
que vous irez voir d'abord le film de
bien
Polanski?
Bien sûr que j'irai le voir, lundi prochain, je crois.
Mais la polémique, elle est là, mais vous irez le voir. Mais
bien sûr.
Pourquoi?
Parce que Polanski est un immense cinéaste et que j'ai très envie de voir la manière dont il parle de Dreyfus.
Il paraît qu'il est excellent d'ailleurs ce film.
Oui,
enfin, les critiques que j'ai vues a l'air excellent.
Sûr.
Mais pourtant, quand vous étiez ministre de la Culture en 2009, déjà Polanski était dans l'actu avec une histoire comparable. Vous aviez dit son arrestation en Suisse est épouvantable pour une histoire ancienne qui n'a pas vraiment de sens. Aujourd'hui, vous dites quoi?
À l'époque, elle n'avait plus vraiment de sens puisqu'il avait été pardonné par la victime en quelque
sorte. Mais celle-ci, elle date de 45 ans aussi.
Oui, enfin celle-ci, moi voulez que je vous dise, je n'y crois pas.
Vous ne croyez pas aux accusations de la jeune femme?
Non, je ne crois pas.
Il y a pas mal de témoignages autour d'elle.
Non, il y a deux témoignages, on ne sait pas qui c'est. Il y a
D'accord.
deux témoignages, les deux qui sont dans le Parisien Libéré, on ne sait même pas leur nom, on ne sait pas qui c'est.
Et vous avez peut-être vu Nadine Trintignant qui dit « Moi, je garde toute ma confiance en Polanski. En plus, en ces temps d'antisémitisme galopant, ça me déplaît, cette histoire-là. »
Le témoignage de Mme Trintignant est particulièrement émouvant, parce qu'on imagine ce qu'elle a vécu, ce qu'elle vit encore tous les jours. Et donc, je pense que c'est une parole qui mérite autant d'être écoutée que d'autres.
Merci beaucoup, Frédéric Mitterrand, donc, pour ce Napoléon III et Victor Hugo, le duel chez XO Éditions, et puis pour son commentaire sur l'actualité Polanski, mais il ira voir le film. Je vous souhaite un très bon dimanche.
Merci beaucoup.
Merci à vous.